RFI, grand reportage, Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous conduit aujourd'hui au Nicaragua. Il y a 9 mois, en avril 2018, des milliers de Nicaraguayens envahissaient les rues du pays pour demander le départ du président Daniel Ortega. L'ancien guerrillero sandiniste a depuis longtemps perdu le soutien d'une large partie de la population qui le juge trop autoritaire et corrompu. Mais le chef d'État a refusé catégoriquement de quitter le pouvoir et a déployé ce qu'un de ses anciens collaborateurs qui a déserté qualifie de régime de terreur pour écraser toute contestation. Ses opposants vivent dans la crainte d'être arrêtés, emprisonnés et torturés. Vivre sous la répression au Nicaragua, c'est un grand reportage à Managua d'Alix Hardy à la réalisation Ludivine Amado.
Il fait nuit à Managua et la voiture d'Éric Murillo roule vers une destination dont il ne donnera pas l'adresse. Ces derniers temps, cet étudiant en médecine n'aime pas trop sortir dehors car il se sait recherché par la police.
On se dirige vers une maison très sécurisée. C'est un des lieux en lequel j'ai confiance ici au Nicaragua. Officiellement, on vit dans une autre maison. Cette situation est temporaire. La police continue de rechercher activement les planques, là où se cachent ceux qui sont recherchés.
Éric a peur d'être arrêté car il a participé activement aux manifestations qui réclament le départ du président Ortega. Quand il a vu que le régime envoyait des forces lourdement armées tirer sur la foule, il a monté une brigade médicale pour secourir les manifestants.
Les hôpitaux publics ont cessé de soigner les manifestants blessés. Du coup, nos postes médicaux étaient remplis. Il y a un nombre de blessés officiels, mais la véritable liste est beaucoup plus longue. Le rapport officiel ne prend pas en compte tous ceux qui ont été secourus dans des écoles, des églises, dans la rue. Ceux qui venaient au poste médical venaient pour qu'on leur sauve la vie.
Leur petit poste de secours de Masaya, à 30 km de la capitale, s'est rapidement transformé en hôpital de guerre. Éric a tout filmé.
Vous pouvez voir qu'on n'avait pas toutes les conditions nécessaires. On soignait les gens par terre. Lui, par exemple, il a reçu une balle de Kalachnikov. C'est ce qu'utilise la police. Ce ne sont pas des armes qui se trouvent partout. Les gens n'étaient pas préparés à ce qui s'est passé le 19 avril. Lui, il a reçu un éclat dans la tête. Il doit avoir à peu près 18 ans. Vous voyez qui fait partie de la lutte, ce sont les jeunes. Il a perdu beaucoup de sang, mais il a survécu.
Éric marque une pause. Il est ému. À travers les vidéos qu'il fait défiler devant nous, c'est comme s'il était reparti une fois de plus au poste médical.
On va tous devoir vivre avec ces souvenirs, car on s'est attaché à des gens, on a mis du cœur à l'ouvrage, et on a vu la vie s'éteindre dans leurs yeux. On pleurait, et en même temps, on n'avait pas le temps de s'apitoyer, il fallait continuer. Je me souviens d'un garçon à qui j'ai promis « Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre ». Il est mort en me tenant la main. Ce genre de souvenir, je vais le porter le reste de ma vie.
Au total, les ONG locales ont recensé plus de 320 morts durant les 3 premiers mois du soulèvement, dont 90% d'opposants. L'État, lui, refuse ce bilan. Fin juillet, Daniel Ortega reprenait les journalistes de CNN qui l'interviewaient.
Les données des organisations des droits de l'homme ne sont pas vérifiées. Le gouvernement a, lui, recensé 195 morts, et ce n'est pas rien. Il y a 22 policiers, 40 sandinistes, et puis des travailleurs de l'État qui ont été assassinés. C'est une persécution. Les organisations mentent. Elles mentent tous les jours et inventent des quantités de morts qui ensuite réapparaissent vivants.
Un collectif de femmes se bat pour faire reconnaître ces morts. Elles se sont baptisées les mères d'avril. Elles ont perdu un enfant, un frère ou un cousin dans les manifestations. Alvaro, le fils de Lisette Davila, a été tué en juillet. Il avait 15 ans. Peu de temps après, sa mère a eu la surprise de trouver des agents de l'État à sa porte.
Ils sont venus nous voir dès le début, la maire de Managua, le ministère public, pour qu'on modifie notre version des faits. Ils nous disaient aussi que si on avait besoin d'argent, on pouvait aller les voir, des choses comme ça. On s'est barricadé chez nous et on leur a dit qu'on ne voulait rien savoir.
Susana, une autre mère d'Avril, ajoute.
Ils savent qu'ils ont commis une erreur en tuant ces jeunes. Ils cherchent à rattraper le coup en allant voir les mères et en leur offrant des choses. Nous sommes toutes dans le besoin. Mais quelle mère accepterait de l'argent pour la vie de son fils ?
Pour comprendre l'étendue de la débâcle actuelle au Nicaragua, il faut revenir 40 ans en arrière. Luis Carrion va nous y aider. À cette époque, il portait la moustache et des lunettes modèle aviateur. Il appartient comme Daniel Ortega au Front Sandiniste, un mouvement révolutionnaire de gauche inspiré par la révolution cubaine. En 1979, les sandinistes renversent le dictateur Anastasio Somoza. Tout le Nicaragua exulte et Daniel Ortega s'installe au pouvoir. Mais Luis Carrion, comme beaucoup d'autres, s'éloignera ensuite de ce président qu'il ne reconnaît plus.
Daniel Ortega s'est approprié le sandinisme dans le discours, les symboles, les morts. Une grande partie des sandinistes historiques a rejoint l'opposition. Car le sandinisme originel n'avait pas pour but de placer un homme au pouvoir et de l'y soutenir coûte que coûte. Il y avait un programme, des principes, et Daniel Ortega les a tous violés.
Aujourd'hui, Daniel Ortega en est à son quatrième mandat. Il a fait modifier les règles de la Constitution plusieurs fois pour se maintenir au pouvoir et il refuse de passer la main ou d'avancer les prochaines élections prévues en 2021.
Son comportement actuel, la répression brutale qu'il a ordonnée qui continue, a pour seul objectif de le maintenir au pouvoir. C'est son but ultime. Si ça signifie que son gouvernement soit déprécié à l'international, ça n'a pas d'importance, c'est secondaire.
L'enquête d'un groupe d'experts indépendants, mandaté par l'Organisation des États américains, documente de nombreux cas de torture aux mains des forces pro-régime. Cet étudiant, qui se fait appeler Polar par crainte d'être reconnu, est passé par les geôles du Chipote, un centre de police de la capitale, connu pour être un lieu de torture.
Ils ont commencé à nous frapper, à nous gifler en gardant leur kalachnikov pointé sur nous. Un des policiers a remarqué que j'avais un tatouage sur l'omoplate. Il vient tout juste d'être fait, il a dit. Et un des policiers qui fumait a écrasé son mégot sur mon tatouage. Ça a été une douleur immense. Et je me suis mis à pleurer parce que je n'arrivais plus à supporter. Je voulais rester fort, mais je n'ai pas pu. Ils m'ont brûlé sur le tatouage, arraché mon piercing, frappé jusqu'au sang. Ils m'ont traité comme un chien, comme un animal, un déchet. Ils essaient de t'humilier pour te faire comprendre que pour eux, tu ne vaux rien.
Plus de 700 dissidents politiques sont toujours emprisonnés et en attente de jugement. Amaya Coppens a fêté ses 24 ans derrière les barreaux. Chaque semaine, depuis 4 mois, ses parents viennent lui déposer des vivres à la prison pour femmes La Esperanza. Son père est belge, cela fait 30 ans qu'il vit au Nicaragua.
Il y a toute une routine qui s'installe déjà. Le mardi, c'est les paquets. Tout doit être dans des paquets transparents, avec le nom, etc. Enfin bon, bref, ça prend du temps, quoi.
Les visites, c'est tous les 21 jours. On a visite demain matin.
Il y a tout un réseau de solidarité qui s'établit entre les parents de prisonniers, prisonnières. Il y a des messages qui se transmettent. Hier, il y a eu une des co-détenues qui avait son audience et qui, en 5 minutes, a réussi à faire passer le message. Cet autre monsieur qui était là nous demandait, sachant que nous allions voir Amaya, de faire passer un message à sa fille.
Amaya est accusée par le régime de terrorisme. Un chef d'accusation qui n'existait pas avant la crise, mais qui a permis au ministère public de faire condamner plusieurs dissidents à 25 ans de prison. L'avocat Minor Curtis se prépare à défendre Amaya à son procès en février. Il a peu d'espoir.
Les charges sont assez graves. Amaya était une leader étudiante et elle s'est engagée dans les manifestations anti-Ortega. Mais ce n'est pas de ça qu'elle est accusée. On lui impute des charges de terrorisme. Son statut ne va pas la favoriser. Au contraire, je pense qu'elle sera punie encore plus durement. Ce sont des stratégies pour dissuader de nouvelles manifestations. Au début, elle a espéré que peut-être elle serait déclarée non coupable. Je lui ai dit de se préparer un verdict de culpabilité et qu'on soit débouté en appel et en cassation. On ira jusqu'aux tribunaux internationaux. Elle est donc préparée, si les conditions du pays restent les mêmes, à passer entre un an et demi en prison.
Ceux qui ont échappé à la prison ont fui le pays ou se cachent pour échapper au régime d'Ortega. Erasmo Torres est l'un de ceux-là. Entré dans la clandestinité en juillet, il a pris l'habitude de changer régulièrement de domicile.
J'ai déjà connu 7 planques différentes. Je crois que cette maison est de loin la plus confortable. Voici ma chambre, mon ordinateur, qui est mon lien avec l'extérieur. Mes habits, ici, je ne les déballe jamais, parce qu'à tout moment, on peut te dire de partir. On te dira juste, on y va. On a un problème, ou ils savent que tu es ici, et il faudra partir immédiatement.
Le changement est brutal. Un jour, les étudiants combattent le régime sur des barricades. Le lendemain, ils sont enfermés dans un réseau de cachettes, soudain immobilisés et isolés.
C'est dur, tous les jours. On ne peut pas voir notre famille. C'est dur parce qu'il faut accepter de ne plus pouvoir franchir le pas de la porte. D'une certaine manière, c'est comme être en prison. Dans certaines planques, il n'y avait même pas de lit. Tout ça nous a tellement changé qu'on vit une vie nocturne désormais. Je n'arrive plus à dormir la nuit parce que c'était le moment où il fallait rester sur ses gardes, le moment où ils nous attaquaient.
Comme beaucoup de ses camarades entrés en clandestinité, Erasmo ne va pas bien. Son corps n'arrive plus à encaisser le stress, l'isolement et la mauvaise alimentation. Ce jour-là, une docteure est venue lui rendre visite en cachette.
Viens par ici que je te fasse une piqûre avant de partir.
Je déteste les piqûres. Mais ma fièvre ne baisse pas depuis 15 jours. C'est le stress, la dépression, c'est horrible. J'ai pleuré, je n'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré pour ma famille, pour mes amis, pour ce pays.
Ces derniers mois, la situation a connu une véritable escalade. En décembre, le gouvernement a annulé l'existence de plusieurs ONG et la police a pillé les bureaux de journaux indépendants.
Figure-toi que ça nous a surpris. Jamais on n'aurait pensé que ce couple irait jusqu'à réprimer son peuple de cette manière. Et tout ça pour rester au pouvoir. Je pense que ça aurait pu être évité, tous ces morts.
Les rues se sont vidées, la population s'est tue. Quand on l'aborde dans la rue, cette jeune Nicaraguayenne de 25 ans hésite, puis accepte finalement de parler à des journalistes étrangères, à condition que l'on se mette à l'écart. Dans une rue peu passante du centre-ville, elle explique pourquoi elle n'a pas participé aux manifestations.
Mi corazón quiere.
Je voudrais y aller de tout mon cœur, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Ça me fascinerait parce que je suis jeune, parce que je suis en désaccord avec le pouvoir en place. Mais si j'y vais, je mets ma vie en danger. D'ailleurs, même si je vous donne mon nom, si on nous voit ensemble, ils peuvent venir jusque chez moi pour m'arrêter.
La conversation est décousue. Dès qu'un bado s'approche, il faut passer aux Français pour faire diversion. Ils sont nombreux comme elle à s'auto-censurer par peur de représailles.
Il y a énormément de jeunes qui sont en désaccord avec le pouvoir, mais la peur règne. Au début de la crise, je publiais mon avis sur les réseaux sociaux. Mais un de mes oncles m'a dit qu'il vaudrait mieux être prudente et arrêter. Comme moi, plein d'autres jeunes ont arrêté de s'exprimer sur le sujet. Ils font autre chose et ne se prononcent pas sur le gouvernement.
Alors que les opposants sont muselés, les soutiens du régime se font entendre. Des gens qui voient en Daniel Ortega le gardien de la révolution. Ils passent leur journée sur les ronds-points de la capitale à agiter des drapeaux noirs et rouges du parti au pouvoir en musique.
Nous sommes ici pour défendre les acquis de la révolution et pour soutenir notre commandant Daniel Ortega, car c'est notre leader. Nous, les Nicaraguayens, on veut la paix. Parce qu'avant la crise d'avril, ici, il y avait de la croissance économique, il y avait du tourisme et de la tranquillité.
Sur ce rond-point, la majorité des gens sont en fait des travailleurs de l'État, venus sous la menace de perdre leur travail. Depuis 4 mois que cela dure, ce n'est plus un secret pour personne. Pour ce prêtre de la capitale, l'opération est même contre-productive.
Cela m'attriste car le pays n'avance pas quand Ortega envoie des gens sur les ronds-points au lieu de travailler. Il crée plus de ressentiment, d'instabilité. C'est dangereux. Je ne sais pas s'il voit cette frustration, ce mécontentement chez ses propres partisans.
Entre la gente, y esto es peligroso. Yo no sé si él lo está pudiendo ver eso, ¿verdad?
Mais le régime semble se fissurer. Un des magistrats de la Cour suprême, Rafael Solis, a démissionné de ses fonctions en janvier. C'est un camouflet pour le pouvoir parce que c'est une des figures du régime et un proche d'Ortega. En exclusivité pour la rédaction en espagnol de RFI, il évoquait début janvier les raisons de son départ.
Il y a un état de terreur dans le pays, un usage excessif de la force par la police, le pouvoir judiciaire est extrêmement limité et je sens que le gouvernement n'a aucune intention d'arriver à un accord. Il n'y a pas de liberté d'expression, de manifestation, pas de liberté de s'organiser politiquement, beaucoup de prisonniers. En fermant les portes à une résolution pacifique, on s'achemine vers une voie de résolution armée, celle qu'on a dû emprunter il y a 40 ans pour renverser Somoza.
Certains espèrent que le salut viendra de l'économie. Insensible jusqu'ici aux pressions politiques, Daniel Ortega aura plus de mal à ignorer les sanctions financières. À cause de la crise, la croissance sera négative en 2019. Fin décembre, les États-Unis ont coupé le robinet des aides internationales, cruciales pour le Nicaragua. Les conséquences se font déjà sentir dans le pays.
À cause de la situation, c'est très compliqué de garder son travail en ce moment. Les investisseurs se retirent, le tourisme s'est arrêté. À cause de ça, j'ai des amis et de la famille qui ont dû partir. Nous, les jeunes du Nicaragua, on n'a aucune idée de ce qui est à venir. C'est beaucoup d'incertitudes.
Comme plus de 400 000 personnes, la jeune femme a perdu son emploi à cause de la crise politique. Ceux qui le peuvent partent. Par peur ou par nécessité économique, 60 000 personnes ont déjà quitté le pays. Vivre sous la répression au Nicaragua, un grand reportage d'Alix Hardy, réalisation Ludivine Amado.
Soy libre.